Nous sommes le 7 mars 2026. Je dis ça pour un enregistrement internet. Alors, la dernière fois, on avait parlé déjà de la pauvreté spirituelle. Vous vous rappelez ? On avait dit que la pauvreté, c'est chose qui est de l'ordre du manque et que nous pouvons percevoir comme une malédiction. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Job, vous voyez. Il y a une forme de malédiction. Bon, sauf que dans l'histoire de Job, on a vu que ce n'était pas une malédiction. Et puis, vous avez quand même Deutéronome 35 et suivant, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Donc, si nous sommes dans les commandements de Dieu, tout ira bien. Mais si nous dévions, alors, à nos risques et périls. Et ça reste toujours vrai, puisque la loi de Dieu, Yara en hébreu, qui a donné Torah, ça veut dire l'élan, la direction. Donc, c'est un chemin. Je vous fais remarquer en passant que dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible, on ne parle pas des 10 commandements. On en a parlé après. Hein. Mais on parle des 10 paroles. Vous voyez la différence ? Nous vivons, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et cette parole nous indique, entre guillemets, le mode d'emploi de la vie. Jésus dira au jeune homme, fais ceci et tu vivras. Un coup de cheval pour avoir la vie éternelle. Bon, fais ceci et tu vivras. Donc, il y a une question, c'est vrai, pour nous, de vie ou de mort. Si nous fréquentons le Seigneur, c'est pas juste pour avoir un peu de sucre dans nos semaines ou dans nos journées, un petit luxe qu'on se donne, mais c'est une question de vie ou de mort. Fais ceci et tu vivras. Et quand on a compris que le commandement de Dieu, c'est un commandement intérieur qui doit être inscrit dans nos cœurs, urgence de prier le Saint-Esprit. Fais ceci et tu vivras. Pas une question, je vais essayer ça, peut-être que ça va marcher. Ça, c'est l'attitude magique. J'utilise des forces invisibles et je lui donne des ordres. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans la dynamique des fils et des filles de Dieu. Alors nous avons vu que, effectivement, la pauvreté peut être tout simplement la conséquence du péché originel et nous l'expérimentons comme un manque vital, et ce qui peut nous entraîner dans des attitudes assez toxiques pour nous, du style je suis une victime, je serai toujours une victime, ou du style je me révolte et je serai toujours dans la révolte. Combien j'ai connu de personnes qui ne se sont jamais remis d'un deuil, ils ont tout abandonné, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Voilà. Enfin, un moment, dans la révolte, dans la rancœur. Alors, aujourd'hui, je propose que nous nous attardions plutôt sur, la pauvreté vue comme une béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, nous dit Jésus dans le discours sur la montagne, Matthieu 5. Voilà, bienheureux les pauvres de cœur, les pauvres par l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et nous constatons que dans l'Évangile, la pauvreté comme manque est une règle. D'abord, Jésus appelle ses disciples, il leur demande de tout quitter. Bon, on pourrait juste aller avec lui le dimanche et c'est tout, quoi. Hein, voilà. Alors, non, quittez tout. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive. Voilà. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume. Et puis voilà. Et le jour où le jeune homme riche lui demande à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire, effectivement, pour avoir la vie éternelle? Mais il faisait déjà pas mal, puisque il cite les derniers commandements, en fait, à partir du sixième, non, du quatrième, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Et Jésus lui dit, ben, c'est bien, il te manque une seule chose, quoi. Va et vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ce qui manque à ce jeune homme riche, c'est la pauvreté. Et ce qui nous manque pour avoir une relation vraie avec Dieu, c'est la pauvreté. Vécu comme manque, pas forcément la pauvreté matérielle, certes, mais quand même. Un manque. Je ne sais pas si vous êtes allé à Assise, moi ça m'avait frappé à Assise, vous avez deux basiliques, la supérieure et l'inférieure, dans la même église. Et en bas, vous avez les fresques, là, magnifiques. D'un côté, la vie de Saint-François, de l'autre côté, des épisodes de la vie du Christ, pour montrer que Saint-François est un autre Christ. Puis tout à fait, au niveau de l'autel, vous avez le mariage de Saint-François avec Dame Pauvreté. Alors, à côté de Dame Pauvreté, il y a un buisson d'épines. C'est pas très confortable. Pourtant, Dieu nous le demande. Dieu nous le demande et nous savons que cet état de pauvreté, c'est un tremplin. C'est un lieu où Dieu se manifeste. Trop bien. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, parce que le riche, c'est celui qui n'a besoin de rien. Tout va bien pour moi. Ne vous occupez pas de moi, surtout. Cette espèce d'illusion d'indépendance. On a confondu autonomie et indépendance. Ah oui, c'est vrai qu'on est fait pour être autonome, mais pas pour être indépendant. Nous allons vivre dans une interdépendance. Le pain que vous avez acheté, que vous avez mangé, c'est pas vous qui avez cultivé le blé, c'est pas vous qui avez récolté, c'est pas vous qui avez fait le moulin, etc. En fait, nous vivons dans cette interdépendance. C'est un état de fait. Mais alors, comment en fait, cet état de manque, eh bien, est une bénédiction finalement. Parce que nous, on retient juste les épines. Vous voyez, le buisson d'épines. C'est même pas drôle. Bon, ok. Alors, première chose, Dieu se manifeste comme tendresse pour le pauvre, comme miséricorde, donne son cœur à la misère. Ça, c'est le cœur de Dieu, le Père des miséricordes. Si vous êtes devant Dieu en disant « tout va bien pour moi », puis voilà, évidemment, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication. Mais le Père, il est amour et miséricorde. C'est-à-dire qu'il est attiré par notre misère. Et notre misère, je ne fais pas forcément de dessin, notre misère, elle tient déjà de notre état suite à la chute. Nous avons perdu Dieu. dans, je vous rappelle, dans les malédictions qui restent, qui demeurent du péché originel, il y a l'ignorance de Dieu. Alors que nous ne pouvons rien faire sans lui, Jean 5, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis les saints ont dit, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Il est le souffle de notre vie. Et nous sommes créés pour être dans son intimité. Le paradis, c'est ça. Paradis, ça veut dire un jardin de Dieu. Nous sommes faits pour être dans cette présence intime. Parce que notre cœur est en manque. Et nous sommes des pauvres en amour. Qui d'entre nous ne manque pas d'amour? Alors, Dieu, dans les premières révélations, pas tout à fait les premières, mais on se rappelle la révélation de Dieu au buisson ardent. Exode 3. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Autrement dit, notre Dieu n'est pas derrière les nuages, comme on imaginait Jupiter du temps des Romains. Il est derrière les nuages, parfois il n'est pas content, donc il nous envoie la foudre. Notre Dieu, il descend. Il est attiré par ce qui est faible, ce qui est vulnérable. Matthieu 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Autrement dit, la vulnérabilité, c'est ce lieu où Dieu vient. Grand mystère. Dieu qui est attiré par notre misère, non pas pour en jouir, mais pour la remplir. La remplir de lui-même, l'Eucharistie. Pour que l'amour soit satisfait, dit la petite Thérèse de Lisieux, il faut qu'il descende. Elle répète, qu'il descende jusqu'au néant pour transformer en feu ce néant. Tel est l'amour de Dieu pour nous. Et ce néant, c'est notre pauvreté. Dieu a compassion. Alors, combien de paroles de la Bible nous le dit? Psaume 9, le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Psaume 21, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Psaume 33, un pauvre cri, le Seigneur entend. Psaume 112, de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Psaume 114, le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Alors, c'est évident de rentrer dans la béatitude des pauvres, vous me direz. Alors, comment ça se passe dans la Bible? Il y a déjà le commandement du sabbat, septième jour. Tu ne travailles pas le septième jour. Ben, ce n'est pas l'aspirateur le dimanche. Hein. On ne travaille pas le septième jour. Et dans le judaïsme, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on s'arrange pour ne pas avoir terminé son travail la veille du septième jour, pour se rappeler que Dieu seul accomplit. C'est pas nous qui allons nous servir de Dieu, voilà. C'est Dieu qui crée, et nous on participe, pas l'inverse. Donc c'est déjà une première préparation. Oui. Et puis, si on regarde quelques figures de la Bible, alors vous avez Abraham. Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays. Et puis il a 75 ans quand Dieu lui fait la promesse qu'il va avoir un fils. Bon, sa femme a laissé un petit détail. Il va falloir qu'il attende d'avoir 100 ans pauvreté. Bon, il a eu le temps de se faire tous les schémas dans sa tête. Hein. Sarah aussi. Donc, en fait, il a entendu longtemps, 25 ans, la pauvreté. Parce qu'il y a l'heure de Dieu aussi. Nous ne maîtrisons pas le temps. Jusque à quand, Seigneur, vas-tu m'oublier? Pas évident, si nous passons par ce creuset. Alors, bien sûr, c'est l'apprentissage du peuple hébreu au désert, dans l'Exode. Ils vont être nourris par la manne, c'est au jour le jour. Si tu prends un peu plus pour faire des réserves, ça pourrit. Sauf le sixième jour. Il faut que tu prennes aussi pour le septième jour, parce que tu ne travailles pas le septième jour. Donc le sixième jour, tu as le droit de faire une réserve pour deux jours. Donc c'est une sacrée école, hein. Ça a duré 40 ans. Non, le temps d'approfondir. Voilà. Et puis, Israël va être sauvé aussi d'Amalek. Vous vous rappelez Josué qui va combattre pendant que Moïse est en haut de la montagne, en train de prier. Bon, il y a besoin de prier en ce moment, vous avez vu, hein, pour notre pauvre monde. Voilà, les prophètes qui apprennent aussi à dépendre de Dieu en tout. Élie sera nourri aussi, au torrent, etc. Voilà. Il sera fortifié par une nourriture qui vient de Dieu. Et puis, vous avez Job, dans l'Ancien Testament. Alors, Job, c'est celui qui tout réussit, 7 fils, 3 filles, le plus fortuné, 7 000 brebis, 3 000 chameaux, etc., etc. Et puis, alors, il y a Satan qui va voir Dieu, puis il dit qu'il va voir si on l'éprouve, ben, il ne va pas continuer à te servir. Hein. Alors, Dieu a dit, ok, mais juste, bon, veille à sa vie, quoi. Alors, vous connaissez cette histoire. Ça commence par tous ses biens, par tous ses enfants. Et là, il y a sa femme qui dit, maudit Dieu, quoi. Maudit Dieu, il meurt. Hein. Bon, alors, lui, non, il va persister. Et puis, après, il y a l'histoire de sa santé. Il a une espèce de lèpre, enfin, il y a un truc, une maladie de peau. Donc, voilà que tout le monde le fuit, parce que quand vous êtes malade dans une longue maladie, il y a des chances pour que vous soyez un peu seul. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est l'affaire de Job. Tout le monde le saluait avant, notable, et puis après, bouf, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne vaut plus rien, quoi. Alors, voilà que Job, à la fin, il est juste un peu fatigué spirituellement. Il craque. Et il dit, ben, finalement, il aurait mieux fait de pas naître. Bon, il y a tous cette espèce d'enquête avec ses amis qui veulent savoir qui est le coupable, pour qui il paye. Personne n'était coupable. Bon, et la fin est très intéressante. Dieu lui dit, mais tu étais là quand j'ai créé le monde. Tu étais là quand j'ai fait les étoiles, tout ça. Tu étais là, toi. Comment tu peux expliquer la création? Alors, en gros, c'est pas dit dans le texte, comment? Arrête de vouloir tout expliquer avec ta petite intelligence. Et voilà que Job se repent, parce que c'est vrai que Job pensait un peu comprendre Dieu, quoi. Tu peux pas comprendre Dieu. Et là, c'est aussi une pauvreté. Je vous rappelle, la première malédiction qui reste du péché originel, c'est l'ignorance de Dieu. Combien nous avons besoin au jour le jour de lire la parole de Dieu, de le chercher, parce que qui cherche trouve. C'est Jésus qui nous dit, cherchez et vous trouverez. C'est pour ça que dans la tradition de l'Église, vous avez toujours eu la lectio divina. Avec répéter la parole de Dieu. Seigneur, viens me révéler ton mystère, parce que mon âme a soif de toi. Voilà. Et Vous avez aussi la figure d'Esther. Vous voyez, on veut exterminer tout le peuple. Et puis Esther crie vers le Seigneur, c'est le cri vers le ciel. Vous voyez comment on s'approche de la béatitude des pauvres. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Je n'ai plus que toi. Je n'ai plus que toi. Ça, c'est la pauvreté en esprit. Le jour où nous pouvons dire à Dieu, je n'ai plus que toi, alors il y a des chances pour que nous soyons des pauvres selon l'Évangile. Non pas un pauvre qui se recroqueville sur sa misère et qui va s'isoler dans sa grotte pour pleurer sur lui-même, mais ce pauvre qui va crier vers Dieu et justement qui sort dans son isolement. Et Dieu répond. Alors, effectivement, ce qui est difficile, c'est que parfois, il met du temps à répondre, enfin sensiblement. Hein. Le psaume 12, « Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier ? Combien de temps me cacher ton visage ? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour ? Combien de temps mon ennemi sera-t-il plus fort ?» Mais si vous continuez, si nous continuons cette lecture, moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Le psaume 41, je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi, outragé par mes adversaires ? Je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Ce qui signifie que la réponse de Dieu, elle est certaine, mais elle n'est pas programmable. Je vous rappelle Sainte Monique qui a prié pour la conversion de son fils. Pas seulement, hein. Elle a attendu longtemps. 20 ans, il semble. Les Lamentations, chapitre 3. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Donc, ça, c'est une des formes de pauvreté intérieure les plus difficiles. Accepter que, eh bien, nous ne sommes pas les maîtres du temps. Et nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Il y a le temps de Dieu. On se rappelle, Gethsémani, Seigneur, fais que ce couple s'éloigne, mais que ça soit ta volonté. Dieu est maître. Alors, dans le Nouveau Testament, vous avez l'envoi en mission. Surtout, prenez pas d'argent. On a connu un ami là au Brésil, quand il partait avec toute son équipe en évangélisation, il partait pieds nus et sans argent. C'était à Sao Paulo. Bon, voilà. On a des amis à Paris qui font pareil aussi. Pourtant, ils ont pas mal d'argent. Enfin, la carte bancaire reste à la maison. Ils ont quand même des chaussures aux pieds. Bon. Voilà. Mais ce que j'aimerais partager avec vous dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Pierre et de Judas. Tous les deux sont confrontés à cette pauvreté spirituelle. Pauvreté du cœur. Il y en a un qui s'était engagé. Hein. Moi, je donnerai ma vie pour toi. Vous vous rappelez de ça. Et Jésus va prophétiser cette trahison quand le coq aura chanté trois fois. Enfin, chanté, il aura renié trois fois. Bon. Et puis vous avez Judas. Judas qui, en fait, dans sa tête, il s'attendait plutôt à un Messie qui vient prendre le pouvoir, sans doute. Bon. Donc, vous connaissez cette histoire. La différence entre les deux, c'est quoi ? Tous les deux sont plongés dans un abîme de détresse, Ils ont trahi le Maître. Ils ont trahi Dieu. Il n'y a pas plus grande souffrance. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui va accepter le regard de Jésus. Et quand Jésus tourne son regard, eh bien, vers Pierre, il pleure. Il pleure. Pourquoi ? Parce que il accepte de ne plus être sous son propre regard, mais sous le regard de Dieu. C'est vrai que dans nos vies, il y a des choses où on a du mal à se pardonner. J'étais capable de faire ça. C'est difficile de se pardonner. Mais vous voyez, l'histoire de Pierre nous apprend que si nous voulons être des pauvres, selon le cœur de Dieu, alors nous n'avons plus l'ordre de notre justice humaine. Notre justice humaine, lorsque nous nous regardons dans la glace, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle va résonner œil pour œil, dent pour dent. Elle va dire, il faut que tu payes. C'est pas fini. T'es coupable. Tu dois payer. Mais, si nous acceptons de nous laisser regarder par celui qui n'est qu'amour et miséricorde, alors nous pouvons nous délester de, on va dire, cette richesse que nous gardons, notre propre justice. Je ne juge moi. Jésus a dit aussi, ne jugez personne. Soyez miséricordieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discerner ce que tu fais, ce que tu dis, ne me paraît pas juste. On a le droit de dire ça, il me semble, le discernement. Par contre, de dire tu es mauvais, là c'est un jugement. Parce que Dieu seul sait ce qu'il y a dans l'homme. Dieu seul, pas moi. Alors, l'histoire de Pierre, c'est ça. Et l'histoire de Judas, rappelez-vous, Matthieu 27. Alors en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent au grand prêtre et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent, que nous importe, cela te regarde. Vous voyez la différence ? Cela te regarde. Qu'est-ce qu'il a en vis-à-vis ? Lui qui l'accuse. L'accusateur. Il n'y a pas de miséricorde. Et j'insiste quand même un peu sur cette pauvreté spirituelle. Nous allons accepter que nous ne détenons pas l'ordre de la justice. Jésus a dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je le dis. L'ordre de la justice en Dieu, elle est différente. C'est pas du laxisme. C'est pas du laxisme, attention. Parce que la conversion va impliquer le changement du cœur, bien sûr. Mais la conversion, elle va se passer dans cet échange de regards. Le regard exprime le cœur. Voilà. Alors, la pauvreté en esprit, donc, si on en croit tout ce que nous venons d'entendre, alors, c'est bien, elle est bien définie dans Deutéronome 8. Dieu, il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. On se rappelle que ce passage de Deutéronome 8 est cité par Jésus au moment où il a faim. Je ne sais pas si vous avez fait des jeûnes prolongés. Quand on jeûne pendant 40 jours, c'est le maximum que, semble-t-il, le corps humain puisse supporter. C'est-à-dire que vous avez faim les trois premiers jours, après vous n'éprouvez plus la faim. Donc ça va, quoi. Et le sucre dont le corps a besoin, il va être pris dans les différentes parties du corps. Bon, il y a un délestage, etc. Mais au bout de 40 jours, si vous éprouvez la faim, si vous allez mourir. Cette faim-là, c'est pas juste « Ah, j'ai envie de manger mon déjeuner, quoi. » C'est que c'est vital. C'est justement là que le démon vient titiller Jésus. Change donc les lois de Dieu. Il peut le faire, il ne fera pas. Parce qu'il est pauvre aussi. Voilà. Dans la Bible, vous avez ce qu'on appelle les anabim, les pauvres du Seigneur, le petit reste d'Israël. C'est une vraie formation. Mais pour comprendre cette formation du peuple de Dieu, petit reste d'Israël, qui va donner à la Sainte Vierge, une pauvre par excellence, elle laisse la place à l'autre. Elle n'est pas imbue d'elle-même. Elle est toute écoute, donc toute relation. Elle reçoit. Elle garde cette parole qui fait vivre. Alors, en fait, pour comprendre cette pauvreté qui devient une béatitude, bien, il nous suffit de contempler Jésus lui-même. Philippiens 2, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, l'incarnation, celui qui est Verbe de Dieu, se fait petit bébé dans le ventre de sa mère. Vous savez qu'un bébé, il n'a pas la parole quand il naît. Et si vous le laissez tomber, pendant 2-3 jours, il meurt. Le bébé est laissé à lui-même, contrairement aux petits chatons, aux petits des animaux qui ont potentiel génétique assez extraordinaire. Si la mère n'est plus là, bon, je suis dead, évidemment. Mais eux, ça va, quoi. Mais le petit de l'homme, il va exister dans le regard de sa mère. Il est dépouillé. Totalement. La pauvreté du Christ, qui se fait homme. Mais ça devrait nous choquer. C'est lui qui tient l'univers dans ses mains. Ça fait ses petits enfants et qui dépend entièrement de ses parents. Il est dit même, quand il a 12 ans, vous savez, il va disparaître, il a fait sa bar mitzvah, vous savez, qu'il est adulte dans la foi, c'est dans le long judaïsme, on fait encore ça aujourd'hui. L'enfant est capable de lire la Torah et de la commenter. Puis il disparaît. Alors, ne saviez-vous pas que je vais être dans mon père? C'était bien sûr, évident. Pourquoi? Vous m'avez cherché. Voilà. Mais il est dit qu'il leur était soumis. Pas celui qui fait la loi. Celui qui a fait toutes les lois est soumis. Il vit dans la soumission. Il va obéir. Et nous, un test pour savoir si nous sommes dans cette pauvreté évangélique, est-ce que nous obéissons facilement? Quand on nous dit « mets pas l'éponge ici, mets là plutôt là. » Oh, quoi s'il se mêle? pas si évident de vivre dans un esprit d'obéissance. Parce que cet esprit d'obéissance, c'est un esprit de dépendance. Cultiver l'interdépendance. Et non pas l'indépendance. Et je vais en venir. Voilà. Jésus va connaître la fatigue, il va connaître la faim, histoire de la Samaritaine. Avec le lavement des pieds, il s'abaisse, il se fait pauvre, il se fait comme un esclave, c'est les esclaves qui lavaient les pieds. Même un juif ne faisait pas ça. Quelqu'un juif ne faisait pas lui demander ça, quoi. Bon, et puis il y a bien sûr la passion, et puis figure humaine. Mais il va préférer la volonté du Père à la sienne. Il est pauvre de sa propre volonté. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la volonté du Père, elle est bonne. Elle est très bonne. Et puis, devant la justice des hommes, en l'occurrence c'est Pilate, qui lui dit, mais tu me refuses ? Tu refuses de me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Réponse de Jésus, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Ce que dit Saint Pierre, 1 Pierre 2, verset 23, insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Il est pauvre de sa propre justice humaine. Il aurait pu envoyer les légions d'anges. Il est pauvre de sa justice humaine. Œil pour œil, dent pour dent. Et il va préférer la justice de Dieu. Il a bien fait, hein. Il a ressuscité. Amen. Voilà. Alors, sur la croix, Jésus est plus que vulnérable. Il se rend vulnérable. Mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et là, puisqu'il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ici, il y a un mystère d'amour. La vulnérabilité, c'est le lit de l'humanité avec Dieu. Vous voyez, en fait, les lois là, qu'on veut faire passer en France, c'est une loi barbare. Parce que s'il n'y a plus une miséricorde qui est attirée par le vulnérable, alors c'est la porte ouverte à toutes les violences. Est-ce que vous me suivez ? Alors que la vulnérabilité, c'est justement la pauvreté radicale. Regardez le petit enfant dans le ventre de sa mère. Il ne peut pas se défendre. Et Jésus, sur la croix, il se laisse massacrer dans sa passion. Il ne se défend pas. On lui arrache la barbe, on lui crache dessus, etc. Il se rend vulnérable. Et sur la croix, il va dire « J'ai soif ». Là, il le dit. Et comme vous savez, cette parole a déclenché, aussi fait partie de la deuxième conversion de la petite Thérèse. J'ai soif. Elle comprend que ce « j'ai soif » que Jésus va adresser à la Samaritaine et qui plus tard, il va nous adresser sur la croix. C'est une soif de notre amour. Pourtant, c'est un petit amour. Tant qu'il n'est pas transformé par Dieu, Jésus a soif. Et nous, nous pouvons passer sans le voir, sans même l'entendre. J'ai soif. Thérèse entend ce cri, elle a 14 ans, et elle va décider de passer sa vie au pied de la croix pour recueillir le sang qui coule du cœur de Jésus. Vous savez, le sang et l'eau, Jésus qui a qui a vécu cette torture épouvantable de la flagellation. Vous demanderez à des médecins, dans une torture comme ça, le cœur s'entoure d'eau. Comme les poumons sont... Il y a la plèvre, c'est le poumon, il y a un espèce de liquide. Et là, il y a toute une membrane voilà, qui va se remplir d'eau. Et Jésus a dû mourir, en fait, le cœur a dû lâcher. Voilà. Et quand il y a eu ce glaive qui a pénétré, il y a eu le sang et l'eau. L'eau qui s'était mise là, vous voyez ? Et le sang. Et qui recueille ce sang ? C'est Marie. Pourquoi elle le recueille ? Parce qu'elle-même, elle s'est laissée transpercer. C'est le mystère de la compassion de Marie. Si nous acceptons de donner notre vie à la misère, miséricorde, Dia, alors notre cœur est transpercé. Et de notre cœur, comme dit Jésus, peut jaillir les sources de vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné, oui, à ceux qui ont ce cœur qui s'est laissé ouvrir à l'amour. C'est le cœur de Marie. Jésus s'est dépouillé, il a donné son corps, il a donné l'eau, le sang, tout, et il donne sa mère. Qu'est-ce que vous voulez donner de plus ? Voilà le pauvre par excellence qui va dépendre complètement du bon vouloir du Père. Et ça sera sa dernière parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Marie, au pied de la croix, rappelons-nous que elle avait écouté la parole de Jésus, elle l'avait méditée dans son cœur. Son cœur avait été transformé déjà par cette parole, car Marie, c'est la première disciple de Jésus, ne l'oublions pas. Et pourquoi reste-t-elle debout au pied de la croix ? Pour une mère aimante, c'est quand même pas normal. Elle devrait être complètement effondrée. Elle reste debout au pied de la croix parce qu'elle sait qu'il va ressusciter et la parole de son fils demeure dans son cœur. Et c'est pourquoi, je vous dirai ça peut-être la prochaine fois parce que j'ai oublié son nom, un père de l'Église du 8e, il me semble, qui voit Marie veiller dans la nuit du vendredi, veiller le samedi, et qui va prier, qui va crier vers le Père, ressuscité. Le Père craque. Et alors, c'est pas écrit dans la Bible, mais j'aime beaucoup cette vision, bon, qui correspond aussi un peu quand même à la vision qu'a eu Marthe Robin, où elle voit que Jésus va apparaître d'abord lorsqu'il est ressuscité à sa maman. Elle est debout, pied de la croix, et elle reçoit pleinement l'eau et le sang qui coulent parce que son cœur s'est laissé mourir. Et puis bien sûr l'Eucharistie, où Jésus va se voiler encore plus. Il est là, disait le curé d'Ars, en montrant le tabernacle. Et sa voix était coupée, il ne pouvait plus rien dire. Il est là. Vous savez, on revient de Fatima avec un petit groupe, et puis on s'est arrêté dans un lieu entre Fatima et Lisbonne, qui s'appelle Santarém. Au XIIe siècle, Il y a une femme, c'est malveillante, certes, et qui avait volé une hostie pour faire de la magie noire. Et puis l'hostie, chez elle, est devenue toute lumineuse. Waouh! Et elle s'est recouverte de sang. Cette hostie, elle est conservée depuis le XIIe siècle, miraculeusement. On l'a vu dans un encensoir. Il y avait pas mal de miracles eucharistiques comme ça. Il y a eu une étude qui a été faite par des scientifiques athées, nous avons, on a entendu, et qui ont fait l'étude de ce sang. C'est le même que celui du Saint-Suaire et le même que celui de Lanciano, en Italie. Il y a eu des miracles eucharistiques à Lanciano. Groupe sanguin du Christ, AB+, hein, c'est ça, AB+, donneur universel. Alors, je vous cite la petite Thérèse de Lisieux, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Jésus est malade. Vous voyez, la pauvreté. Jésus est malade. Et il faut remarquer que la maladie de l'amour ne se guérit que par l'amour. Marie, donne bien tout ton cœur à Jésus. Il en a soif. Il en est affamé. Ah, comment ne pas aimer un ami qui se réduit à une si extrême indigence? Comment oser alléguer encore sa pauvreté quand Jésus se rend semblable à sa fiancée? Il était riche et il s'est fait pauvre pour unir sa pauvreté à la pauvreté de Marie du Saint-Sacrement. Quel mystère d'amour! Alors, on comprend que cette pauvreté en esprit, c'est pas seulement en état, on est tous des pauvres. Bon, Saint Quirin disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Mais on pourrait juste s'arrêter à la première partie de la phrase. Ah oui, l'homme est un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a plein de besoins. Puis, il n'a pas forcément les moyens de répondre, lui, tous ses besoins. Malgré ce que les Lusitaniens n'ont qu'à croire avec leur loi sur la dignité de mourir. Bref, comme si on avait la main sur notre vie. Non, notre vie nous échappe. On la reçoit. Ok. Alors, en fait, si nous voulons suivre la suite de cette phrase, l'homme est un pauvre, virgule, qui a besoin de tout demander à Dieu. Voilà. Alors là, c'est une conversion. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. C'est vrai que nous, ici, on peut arriver avec notre souffrance. Bon nombre d'entre vous ont des situations douloureuses à présenter au Seigneur. Mais ça, c'est notre pauvreté. Alors soit nous venons ici en disant « Seigneur, je te commande, puis on va voir si ça marche. » Ça, c'est l'attitude magique. Soit on est des pauvres et on va crier vers le Seigneur, un pauvre cri, le Seigneur entend. Moi, je vous conseille le psaume 33. Si jamais, ça vous arrive peut-être, traverser des moments difficiles, je vous conseille le psaume 33. Un pauvre Christ, le Seigneur entend. Il n'est pas sourd, il entend. Et nous allons proclamer dans nos galères, proclamer la victoire de Jésus. Il y en a un qui rigole quand on se met en colère contre Dieu, quand on rêve dans notre colère. D'accord, parfois. Et c'est une étape, c'est la colère, oui, il faut peut-être passer par là. Mais à un moment, on passe à autre chose. Il est là. Et je crie vers toi, Seigneur. Vous connaissez cette parabole du spéléologue qui est racontée par le Père Molinier dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Le courage d'avoir peur ». C'est l'histoire du spéléologue qui descend dans un gouffre. Vous la connaissez cette histoire. Et puis il va se balader dans son gouffre, et puis à la fin de la promenade, il revient, puis il veut monter, sauf que la corde lâche. Il est dans le fond. Première réaction, je vais y arriver. Donc il essaie de monter, ça redescend. Deuxième réaction, c'est le découragement. Il se replie sur lui. Je vais mourir. C'est pas possible. Troisième réaction, il crie. Il crie. Et là, il y a une corde qui descend. Encore fallait-il crier. Encore fallait-il que notre prière devienne un cri. Seigneur, je crie vers toi. Exauce-moi. Psaume 140. Je crie vers toi, Seigneur. C'est pas juste une petite prière, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, ça. Non, c'est Seigneur, je crie. C'est les tripes. C'est un cri du cœur profond. Et là, le Seigneur craque. On imagine la Sainte Vierge au pied de la croix quand elle reçoit son fils. Il y a un cri dans son cœur. Son fils a crié, et elle a crié, parce que elle a accepté de devenir pauvre, dépouillée comme son fils. Personne n'a entendu ce cri, mais je vous garantis qu'elle a crié dans son cœur. Cœur de Marie. Alors, la question, c'est effectivement, l'homme est un pauvre, virgule, qui a besoin de tout demander à Dieu. Alors, si je demande à Dieu, ça veut dire qu'il faut que je fasse un acte de foi, un acte d'espérance et un acte d'amour. Pas si évident, hein? Parce que l'acte de foi, quand on s'appelle Job, on n'a rien compris. Seigneur, c'est pas logique. Avant, tu me bénissais, là, sans aucune raison, tu ne me bénis plus. Où est ta logique? Accepter de ne pas comprendre, ça c'est la foi. Et de réagir, effectivement, dans la confiance. La confiance est rien que la confiance. Doit nous conduire à l'amour, dit la petite Thérèse. L'espérance, c'est aussi une forme de pauvreté. Ben oui. Romains 8. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. En espérance. Et puis enfin, l'amour. L'amour qui suppose une attitude de pauvreté. Vous savez, souvent on croit aimer, mais on n'aime pas vraiment. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne se fait pas dire à la confession. Hein. Il y en a qui me disent, mais je ne sais pas quoi dire quand je vais me confesser. Bon, ben, je vais vous donner des idées. Seigneur, j'ai mal aimé. Qui d'entre nous peut prétendre aimer comme Dieu nous le demande? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? Tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Vous y arrivez, vous? Bon, moi, à chaque fois, non, pardon, Seigneur, un peu tiède quand même. Tout ton cœur, amoureux du Seigneur, une obsession du nom de Dieu. Puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, ok? Bon, mais aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc, c'est tout un programme. S'aimer soi-même, comme Jésus. Ok? Aimez l'autre comme Jésus. Vous avez vous? Sans le Saint-Esprit, il n'y arrive pas. Jésus l'avait bien dit, sans moi, je ne pouvais rien faire. Mais si vous voulez, cette attitude de pauvreté, selon l'Esprit, c'est une attitude d'ouverture dans sa misère à l'autre. Tant que j'ai la validité d'être indépendant, surtout que personne ne s'occupe de moi, que personne ne me dise ce que j'ai à faire, que personne ne me fasse des remarques, que personne ne me corrige, alors je ne suis pas un pauvre. Je suis autosuffisant. Un parfait pharisien. Hein? Moi, je jeûne deux fois par semaine. Ou trois fois, je ne sais plus, deux fois. Moi, je donne la dîme. Enfin, vous connaissez la suite, quoi. Alors non. Donc, l'amour suppose aussi cette vulnérabilité. Et cette vulnérabilité nous met dans une certaine dépendance, oui. Mais attention, une dépendance qui fait de nous des pauvres, non pas un pauvre qui va aller voler le côté intrusif d'un amour qui aime mal. Intrusif. Et voilà que je me mêle de ta vie. Et je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Et je prends un rôle de chef de je sais pas quoi. C'est pas Dieu ce que Dieu me demande. Mais le pauvre qui reçoit. Si j'ai les mains ouvertes, je vais recevoir. Ça, c'est l'attitude du pauvre. Si je prends, ben d'abord, ce sera moins efficace. Hein, si je prends, je ne peux pas mettre grand-chose dans la main. Mais si je reçois, alors là, je suis prêt à rentrer dans cette aventure de l'amour. Vous savez, le drame de nos vies, c'est que souvent, nous jouons un personnage. Le masque. Donc, on s'est un peu forgé un personnage. Et l'épreuve, souvent, va un peu dépoussiérer tout ça. Elle va un peu éroder tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Et nous allons maintenant, après, devenir une personne. La personne que nous sommes aux yeux de Dieu. Non pas un personnage qui sait tout, qui sait répondre à tout, qui est super spirituel, qui a raison sur tout, un personnage. Parce qu'en fait, ça nous protège de vivre derrière un personnage. Mais là, nous allons devenir une personne. Ce que nous sommes, c'est cette personne qui est cet enfant de Dieu. Et je terminerai là-dessus, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Vous vous rappelez ce moment où Jésus appelle un petit enfant et le place au milieu des disciples et déclare « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Là, on a la clé. Bienheureux les pauvres, c'est-à-dire bienheureux les enfants. Ceux qui parlent beaucoup de cette pauvreté dans la tradition de l'Église, c'est saint François. Lui, ça passe par la pauvreté matérielle et tout ça, pour être dépendant du Père, tout recevoir du Père, la providence, magnifique. Puis vous avez la petite Thérèse, qui, du coup, cette pauvreté du cœur, qui est en fait l'esprit d'enfance. Être un enfant devant Dieu, ça ne veut pas dire d'être imbécile. Hein. Pas infantile. Enfant. L'enfant se reçoit. Je me reçois aujourd'hui du Père. C'est lui, en lui que j'existe. Et je vais vivre sous son regard. Et je vais recevoir de lui, c'est l'humilité en fait. Je vais être comme l'humus, cette terre qui reçoit. Qui reçoit, non pas qui prend, qui reçoit. Voilà. Juste une petite citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour finir. L'esprit d'enfance consiste à être humble, pauvre d'esprit et simple. Voilà, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ça sera pour une autre fois. Alors, on va terminer par une prière, si vous voulez bien, on va se lever. Cette prière de Charles de Foucault que vous connaissez, et dans son esprit, c'est il rejoint Jésus qui va dire sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.